On faisait de la musique dans notre studio en 99 et il y a eu une explosion avec le bug et depuis on est devenus des robots.
Vous aviez besoin de ça ?
Les accidents, on les prédit jamais.
C'est quoi la French Touch ?
Ils étaient un petit peu comme des pionniers qui découvrent l'Eldorado.
L'histoire secrète de la French Touch.
Ils inventaient quelque chose. Voilà, il y avait une idée de mouvement.
Bangalter Thomas, 32 ans, moitié de Daft Punk.
Dorian Christophe Guimmanuel, 33 ans, moitié de Daft Punk.
30 témoins, 30 ans d'archives et d'anecdotes inédites.
C'est pas mal votre truc, vous êtes en même temps hyper pointu, hyper expérimentaux, mais hyper populaire, les gens adhèrent.
Daft Punk, Cassius, Justice, Nile Rodgers. Les coulisses de la French Touch par ceux qui l'ont faite.
À l'époque, quand t'entendais de la techno dans une bagnole à Paris, t'allais voir qui c'était parce que tu le connaissais forcément. Les gens disaient c'est la musique du diable, c'est pas de la musique parce qu'il y a le pied qui fait boum boum boum.
Un podcast de Mathieu Culeron et Stéphane Jourdain.
La French Touch, c'est ça finalement l'histoire à raconter. Hein. À la recherche du succès, puis à la fin c'est Daft Punk qui gagne quoi.
Épisode 10, la pyramide des Daft Punk.
Inter.
Ils devraient une nouvelle fois avancer visage masqué, c'est leur marque de fabrique. Ce soir à Bercy, les Daft Punk reviennent 10 ans après leur dernier concert à Paris. Depuis, le duo électro-français a parcouru le monde avec 6 millions d'albums vendus, ce n'est pas rien. La French Touch marche et en plus, ces musiciens peuvent se vanter sur les...
Peut-être un peu plus stressé que d'habitude avant de monter sur scène parce que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas joué.
Guy Manuel de Homem Christo, moitié de Daft Punk.
Quand on est de Paris, c'est toujours un peu, peut-être un peu plus dur. On s'attendait pas du tout à ce que ça se passe aussi bien en fait, donc on était très surpris. Ouais.
Les deux Daft nous choisissent avec Kavinsky pour faire la première partie de leur live sur toute la tournée.
Sébastien.
Et donc on se retrouve, la deuxième fois où je les vois, c'est sur le parking d'une ancienne usine Philips à Hambourg, où ils avaient stocké la pyramide pour démarrer la tournée. Et on débarque avec Kavinsky. Et pour moi, le truc le plus drôle, c'est qu'ils avaient choisi les deux types, mais sans le savoir, qui avaient le moins de rapport au club de tout. Les personnes autour, on n'avait aucun rapport à ça. Donc on arrive là-bas, il y avait les tourbus de près, et Thomas genre va pour nous montrer la pyramide avec une fierté méritée du truc. Vinko c'est Kavinsky, Vinko qui est Vinko, genre mate la pyramide, il fait une espèce de sketch sur le genre ah ouais super les Égyptiens et tout, genre il se fout un peu de leur gueule. Et c'est là qu'on a vu dans leurs yeux, ils se sont dit genre, attends, en quoi est-ce qu'on s'est embarqué pour un an? Et mais en même temps, au bout de 3 jours, ils étaient morts de rire dans le tourbus. Et là, on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble parce que une tournée entière, en fait.
Une semaine, 16 000 tickets.
Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk. 2007.
Donc désolé pour ceux qui n'ont pas pu acheter leur place, désolé pour ceux qui n'ont pas vu la pub. C'est vrai qu'on a fait, on a joué vachement sur une communication virale, c'est-à-dire qu'on a annoncé la mise en vente des places sur le net. Et c'est vrai que finalement, on a été un peu surpris par le succès, puisqu'on a vendu, je crois, 7 000 ou 8 000 places, ne serait-ce que grâce à cet email. Donc c'est vrai qu'il n'en restait plus que 8 000 à vendre. Donc on a fait un petit affichage. Nous, on est super contents. Et voilà, et ça va être un gros show. On ramène les 7 tonnes de matériel, les lumières, les écrans. Il y aura des hits de Daft Punk qu'on n'a pas entendus pendant Belfort ou Coachella. Mais sinon, en tout cas, au niveau des visuels et graphiquement, ça ressemblera à quoi ? Ça sera ce qu'on a vu sur YouTube ou pour les chanceux qui ont été à Belfort.
À l'époque, c'est littéralement hallucinant de voir un truc pareil parce qu'il y a une dimension vraiment Las Vegas. C'est un truc d'une ampleur... Peut-être qu'aujourd'hui, ça correspondrait à l'équivalent d'un show très de base dans un truc, mais à l'époque, c'est hallucinant de voir un truc pareil.
Les écrans LED, ouais. Première fois qu'on voit des écrans LED.
Antoine Kenobi, consultant pour la marque Kitsune.
D'ailleurs, il raconte, hein, Thomas, qu'ils ont dû convoquer tous les écrans LED qui traînaient aux États-Unis pour rassembler, ne serait-ce que pour faire cette scénographie. C'est une pyramide avec devant un écran LED qui s'illumine.
C'était une pyramide qui était un peu en deux morceaux.
DJ Falcon.
Tu avais les DAF qui étaient à l'intérieur de la pyramide, avec le haut de la pyramide, un peu comme en lévitation, tu vois. Et il y avait des LED projetés sur la pyramide. Et derrière, il y avait un espèce de mur de néon, mais en forme de pyramide. Enfin, c'était des mini-pyramides. Enfin, tout était bien réfléchi, il y avait une cohérence. Le son était d'une puissance phénoménale. En plus, les robots, les trucs, la pyramide, il y avait ce côté mystique. C'était un ovni, leur truc.
J'ai failli ne pas y aller.
Odile Deplace, journaliste chez Trax.
Et puis bon, à la dernière minute, je me dis, non, j'ai quand même pas passé à côté d'un concert des Daft Punk, c'est un peu bête. Donc je chope une place, j'y vais, et là, je me prends une claque énorme. Je me retrouve à danser, c'est un méga mix. Ils vont réussir à fusionner les trois albums. Homework, il y a Discovery et il y a Human After All. Et là, c'est à ce concert que je vais comprendre Human After All. C'est à ce concert que je vais réaliser à quel point ce son plus dur les fait retourner vers la techno qui m'a tant marqué.
À Bercy, je pense que ça a été une des claques de ma vie, un des concerts les plus incroyables que j'ai vus.
Romain Tranchard, du groupe Mojo.
Visuellement, c'était absolument magique, c'était d'une force complètement incroyable. Il y avait cette représentation symboliste avec le delta et la pyramide. Il y avait pas mal de choses qui étaient dingues, et puis leur compilation de tubes remixés, réinterprétés. Ils jouaient avec leur catalogue, c'était à la fois vivant, littéralement vivant, mais pas que musicalement, aussi sur le plan de la lumière, de l'énergie. Je me rappelle qu'on était dans un carré VIP, il y avait le père de Thomas, il y avait pas mal de gens, et à la fin, quand les lumières se sont rallumées, enfin bref, on s'est regardé, on était littéralement choqués, quoi. Enfin, c'était, voilà. C'est complètement extraordinaire.
Transforme Bercy en une boîte de nuit géante. On avait déjà eu des boîtes de nuit, on avait eu le Zénith, on avait des fêtes M6, machin, qui nous faisaient des espèces de fausses rêves commerciales. Mais là, il y a toute une génération qui écoute Daft Punk depuis 10 ans et qui va communier sur ces sons. Et ça, c'est un disque, pour moi, vraiment, que je réécoute régulièrement en me disant... Ils sont DJ et producteurs en même temps. Ils fusionnent les deux figures essentielles de la techno, le DJ et le producteur, et ils arrivent à nous faire danser. Et en fait, on les regarde, mais sans les regarder. J'ai vraiment des souvenirs de vagues sonores.
Patate sérieusement fort, avec cette science du mash-up, c'est-à-dire de mélanger les morceaux, de réinterpréter, qui est devenue la norme de tous les lives de musique électronique. Non mais ce live-là, il est assez fondateur en termes de posture et de proposition dans l'entertainment.
DJ
sorti ça à 18 ans et finalement, ça n'a pas pris de ride.
Moi, j'ai dû en faire entre 30 et 35 des concerts.
DJ Falcon.
J'ai beaucoup regardé le public parce que je faisais des photos. Et en faisant des photos, j'ai beaucoup observé le public et je me suis très vite aperçu que le public, leur visage et la joie qu'il y avait, j'avais rarement vu ça dans des concerts. Il y avait une explosion de joie. Je pense que les gens se rendaient compte, comme moi, ils se rendaient compte que c'était spécial. Il se rendait compte qu'il vivait un truc un peu unique. C'était palpable, ça se voyait sur le visage, c'était presque une évidence. Les gens se regardaient entre eux, tu sentais qu'ils vivaient, il y avait une communion, il y avait ce truc. Comme j'ai pu le vivre dans des clubs, tu sais, des fois, t'as ces moments de communion.
J'ai des souvenirs de gens qui étaient au premier rang, qui étaient genre, qu'est-ce que c'est que ça ?
Sébastien.
Il y a vraiment des gens qui ont eu une sensation de voir des ovnis, il y avait quelque chose qui n'était pas réel. Il y avait des gens, mais j'ai vu des gens qui pleuraient. Ils étaient là genre, mais qu'est-ce que j'ai vu ?
On connaît l'efficacité des DAF. Pas de répit, quoi. C'était, les gens étaient embarqués dans un truc non-stop. Et puis eux, en soi, je veux dire, les casques, ça reste... Quand tu les regardes encore aujourd'hui, ça a passé l'épreuve du temps. Tu sais, quand tu regardes ne serait-ce que des Star Wars, il y a des choses qui vieillissent pas comme ça.
Et puis il y a eu le petit épisode des portables quand il y a le rappel et qu'on part de scène et qu'on revient après.
Guy Manuel de Homem Christo, moitié de Daft Punk.
Entre les deux, quand on n'est pas sur scène, il y a tout le monde qui a ouvert ses portables. Ça, on l'avait déjà eu un peu dans tous les concerts qu'on a fait, mais un petit peu. Et là, vraiment, c'était toute la salle qui était comme ça, illuminée d'une constellation de portables, un peu comme les briquets de l'époque, mais avec des téléphones. Et ça, c'était un moment qu'on a un petit peu vu, mais moins bien que tout le monde. Enfin, tout le monde a partagé ce moment, apparemment. Ça a été un moment un peu, peut-être, qui fait partie de la communion, entre guillemets, dont tu parlais. Je sais. Nous, on a ressenti qu'il y avait quelque chose d'un peu spécial, mais je crois que c'est surtout le public qu'on fait ce feeling spécial de la soirée.
À l'époque, les portables commencent à avoir des vidéos, mais c'est très pixelisé.
Sébastien.
Et je suis dans le tourbus et j'entends Thomas passer souvent des coups de fil au fond du bus, etc. Et on lui demande est-ce qu'il veut filmer le show pour pouvoir le vendre derrière, etc. Et en fait, il se met à voir que les vidéos qui tournent sont très pixelisées et donnent l'impression que le truc est quasi ovniesque, que c'est comme les gens qui ont filmé des ovnis. Et d'un coup, il dit « Non mais en fait, on va pas le filmer. C'est ça qu'il faut laisser. En fait, c'est la mystification de la chose. » De toute façon, c'est tout leur travail était là-dessus. C'est comment tu mystifies de manière très classe les choses. Et je me dis « Mais ouais, le type est génial. » C'est-à-dire qu'il se dit vraiment « Genre, vas-y, on s'en fout du business de vendre le... » Déjà, il y a aussi le côté « T'y étais ou t'y étais pas. » Ça, je trouvais ça génial.
Et à l'époque, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'ils sortent pas de clips.
Odile de Place.
Enfin, ils sortent un clip, mais avec les premières vidéos que les gens filment en concert. Alors à l'époque, on a quand même des téléphones, c'est un petit peu plus évolué que le Nokia, mais pas tellement plus, hein. L'iPhone n'existe pas. Donc on filme avec des smartphones, des vidéos hyper pixelisées, et plutôt que de sortir un clip, ils vont demander à un mec de monter tout ça, et ce sera le clip officiel de ce concert. Et YouTube vient de naître, enfin Facebook arrive, et on découvre le web 2.0, et ils font participer les spectateurs à travers leurs vidéos, à ce live vidéo officiel. Parce qu'il n'y aura pas de DVD, en fait. C'est le live officiel, il est sur YouTube, libre d'accès.
Et on avait tous entendu parler de Coachella par ces petites vidéos.
Romain Tranchard, du groupe Mojo.
Avec le cadre mal filmé, la saturation... Tu vois que c'est la folie, t'entends cette excitation, mais t'as aussi c'est un teasing absolument magistral, quoi.
Bah, on a pensé aux gens justement qui n'avaient pas pu venir et qui auraient aimé. Ou qu'on... Mais après avoir vu tout ce qu'il y avait sur YouTube depuis qu'on avait fait Coachella, où déjà dès le lendemain il y avait beaucoup de choses, et après avoir fait beaucoup d'essais de différentes manières à filmer le show nous-mêmes et passer du temps là-dessus, on s'est rendu compte que le plus proche peut-être de l'expérience du concert en lui-même, c'était ce qu'il y avait sur Internet et qui était déjà là depuis un moment. Donc il y a des milliers déjà de posts sur YouTube qui, peut-être par la mauvaise qualité en même temps, par les tremblements et la musique saturée, en fait, est le plus proche du show en lui-même, beaucoup plus que de filmer et de retrouver, qui était souvent beaucoup plus stérile ou beaucoup plus clean, beaucoup plus... ce qui ne rendait pas le côté un peu frénétique qu'il y a sur YouTube. Donc, ce qu'on a fait l'édition limitée du CD, c'est et qui passe à la télé aussi en clip, c'est le clip d'Olivier Gondry, qui est à mi-chemin entre le côté un peu cru comme ça de YouTube et un concert live peut-être normal. Donc c'est quelque chose qui est entre les deux, avec le talent d'Olivier en plus et son montage hyper original comme ça. Filmer le concert en entier, on a essayé et ça rendait pas ce qu'on voulait, ou ça s'éloignait de ce qu'était le concert.
Histoire secrète de la French Touch, épisode 10, la pyramide des Daft Punk.
Ces premiers lives documentés en vidéo de l'histoire.
Antoine Kenobi.
Donc en fait, le live, on l'avait déjà vu. En fait, y a, par les montages, il n'y a pas 400 personnes avec eux à Coachella. Hein. Le crew est assez réduit hein, finalement. On l'a tous vécu. Moi, je l'ai vécu sur la route avec Sébastien en première partie et Kavinsky. C'était épique.
Bah, c'était incroyable, vivre dans un tourbus avec les Daft.
Kavinsky.
C'est rigolo, quoi. En même temps, c'est sûr qu'on passe du casque avec des lumières, un tourbus avec un mec. C'est chaud de cette salle. Je sais pas, c'est toujours les Daft Punk, en fait. Voilà, moi, c'est des gens, je les remercierai jamais assez.
Kavinsky, c'est le meneur de troupe, c'est le mec qu'il faut emmener en tournée. Parce que
Sébastien.
Je dis pas qu'il a sauvé la situation, mais on était tous quand même des gens relativement calmes. Et en fait, le truc s'est effectivement transformé. Il y avait une partie du show des Daft qui était le show des Daft, et l'autre partie du show des Daft qui était Kavinsky dans le tourbus. Quoi. Il nous a fait littéralement pisser de rire. Kavinsky qui rentre dans la tente où il se changeait, parce qu'il y a un moment, il se changeait vraiment comme des vrais robots. T'avais une sorte de micro-tente, cage dans laquelle t'as les casques qui étaient dans des trucs hyper protégés et tout. Et nous, avec le temps, c'est pas qu'on désacralisait la chose, mais c'est qu'on n'arrêtait pas de voir tout ce qui se passait en cuisine, quoi. Il y avait un côté, je sais pas comment dire, il y avait un côté voyage de classe, quoi.
Et c'est vrai qu'on tourne avec ce spectacle depuis avril 2006.
Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk.
La tournée se termine au Japon et en Australie jusqu'à Noël là, et c'est vrai que et voilà, et finalement on a toujours pris chaque date avec le maximum d'enthousiasme et de concentration, même si le spectacle de Paris, voilà, la salle et l'endroit et Bercy et la symbolique comme ça de tout ça était vraiment peut-être plus concret que certains autres concerts qu'on ait pu faire cette année.
Aucun doute, le duo français le plus célèbre du monde a changé de catégorie avec cette tournée mondiale. Il rivalise désormais avec la démesure des plus grands groupes de rock.
Bah, à l'époque, on trouvait que c'était monumental. Aujourd'hui, ce serait la scéno de je veux pas être méchant, mais d'un truc... Ça fait 10 mètres de haut, alors qu'aujourd'hui... non mais Anima, voilà, Anima, c'est 400 mètres en écran à definition. À côté, ça semblerait être le stand de Merguez, quoi. J'exagère. Non mais il y avait un milliard de bonnes idées, beaucoup de bon goût, c'était révolutionnaire. Par contre, j'avoue qu'un gamin qui est allé à Ultra Music Festival le week-end dernier, tu l'amènes devant ça, il va trouver ça un peu petit.
a abordé ce spectacle avec un concept et une approche totalement différente de ce qu'on a fait il y a 10 ans, qui était beaucoup plus...
Thomas Bangalter.
Purement basé sur la musique, avec beaucoup d'improvisation et de schémas et de choses aléatoires comme ça. Et finalement, des choses qui sont devenues relativement faciles à faire par les machines elles-mêmes aujourd'hui. Et c'est vrai que là, on a une approche qui était beaucoup plus basée sur le spectacle et la combinaison de la musique et de l'image, des lumières et de cette interaction comme ça un peu entre la réalité et la fiction avec ces personnages de robots qu'on incarne. Donc on imagine, on termine cette tournée après 1 an et demi dans à peu près 4 ou 5 semaines. Je pense pas qu'on aura la volonté de refaire la même chose dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans, ou à ce moment-là, voilà, trouver une nouvelle approche ou un nouveau concept qui puisse être valide et intéressant pour nous. On a eu l'impression, avec ce spectacle, avec cette tournée, et maintenant avec ce disque, de faire quelque chose qui était relativement... nouveau ou différent au sein de cette musique électronique comme ça, et c'est ça qui peut-être nous motive. Donc c'est vrai que ça nous a fait plaisir là de faire un concert d'un nouveau type ou qui est difficilement classable, et finalement de sortir ce disque un live comme ça de musique électronique qui est pas vraiment un format courant. Je pense que principalement, nous, on essaye de faire des choses qui stimulent l'imagination à la base, que ce soit musicalement, visuellement, avec notre film ou avec les dessins animés qu'on a pu faire, avec la musique et les albums le font. On a l'impression que ce spectacle, pendant cette tournée, où bon, c'était peut-être difficile, mais bon, on a joué à Belfort, on a joué à Paris, on a joué aux arènes de Nîmes, dans des endroits assez grands, et on espère avoir pu jouer devant les gens qui voulaient vraiment nous voir aussi. Mais c'est vrai que le spectacle aussi, on a l'impression que cette stimulation, elle existe dans ce disque, dans ce CD.
À suivre, épisode 11, le renouveau Headbanger.
Alors moi, je m'appelle Xavier Doronet. Je suis la moitié de Justice, la moitié réveillée, parce que l'autre moitié dort encore.
Oh,
L'histoire secrète de la French Touch est un podcast original de France Inter.